L'éducation populaire, quel lien avec la mutualité ? L'Institut Montparnasse est un think and learn tank et une de nos missions est de réfléchir à l'avenir du mutualisme. Nous avons eu l'occasion d'accueillir une grande diversité d'invités sur nos podcasts. Parmi ceux-ci, des mutualistes bien sûr, mais aussi des grands témoins de l'économie sociale et solidaire, des penseurs, des universitaires, des hommes politiques, de France et à l'international. L'ESS se veut un terrain d'innovation face aux problématiques sociales, un espace de débat autour des questions de société. Et dans cet engagement, nous allons chercher des acteurs de la société civile, des territoires, mais aussi des professionnels afin de relayer les bonnes pratiques et les idées inspirantes. C'est dans le contexte d'un cycle de conférences autour de l'éducation populaire que l'Institut Montparnasse donne aujourd'hui la parole à Denis Adam, qui est intervenu pour une matinée sur l'éducation populaire, quel lien avec la mutualité ? Denis Adam, vous êtes coordonnateur du projet fédéral à l'UNSA, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours personnel et professionnel ?
Oui, alors je suis ce qu'on pourrait dire entre guillemets un professionnel de l'éducation populaire puisque je suis conseiller d'éducation populaire et de jeunesse au ministère jeunesse et sport quand il existe et là en l'occurrence jeunesse rattachée à l'éducation nationale. Et je suis syndicaliste depuis presque 40 ans maintenant, voilà, donc du coup voilà, et pour moi les deux sont intimement liés. C'est à la fois un engagement professionnel et un engagement militant. Et je pense qu'il y a un lien assez fort à être à la fois dans l'éducation populaire et dans l'action collective, sous une forme ou sous une autre. Voilà. Par ailleurs, je suis maître de conférence associé à l'université Sorbonne Paris Nord, où je co-dirige un master qui s'appelle Dynamique culturelle et où on essaye de former des étudiants qui auront cette dimension d'éducation populaire dans leur accompagnement de public vers la culture ou à la culture ou aux cultures, avec une vision un peu différente de celle qui peut être celle du ministère de la Culture.
Très bien. Alors, vous parliez des liens entre éducation populaire et syndicats. Est-ce qu'il existe des tensions internes et externes dans les syndicats ? Et est-ce que vous pouvez nous dire lesquelles ?
Oui, alors évidemment, il y a plein de tensions, mais une des tensions aujourd'hui, pour le lier avec le sujet, c'est le lien avec finalement les professionnels et les salariés. Aujourd'hui, la majorité des travailleurs, des travailleuses disent qu'ils n'ont pas d'espace d'écoute professionnels pour parler de leurs conditions de travail, leur situation, mais souvent en fait ils n'en ont pas non plus du côté des syndicats. On a une certaine technicité qui a été renforcée. On passe beaucoup de temps dans des réunions, dans des commissions, dans des groupes de travail, etc., etc. Et peut-être que on a pour partie délaissé un peu la proximité avec le terrain et l'espace de donner la parole aux travailleurs du quotidien. Nous, dans les métiers de l'éducation, on le voit beaucoup, hein, c'est des métiers qui sont prenants, qui nécessitent que souvent les collègues sont seuls face à leurs élèves, face à leurs étudiants, face à la gestion d'un établissement, etc. Et donc, il n'y a pas d'espace pour en parler. Et le syndicat, il est plutôt vu comme un espace où on va revendiquer des choses. On va alors demander au syndicat de faire pour. Voilà. Et notre problématique, elle est que le syndicat fasse avec et qu'il fasse avec sur des champs plus larges que simplement la défense d'acquis ou la défense de progrès, même si ceux-là sont indispensables. C'est aussi de se positionner dans le quotidien de la vie de tous les jours. Je prends un exemple. Aujourd'hui, les professionnels sont confrontés à l'équilibre entre vie professionnelle et vie familiale. On a tous un smartphone, on a tous une possibilité d'être connecté en permanence. Et quand on est enseignant, quand on est éducateur, on pense en permanence à ce qu'on va pouvoir faire de telle découverte, telle lecture, telle, etc., etc., etc. Quand est-ce qu'on se déconnecte ? Quand est-ce qu'on a le droit de ça ? Eh bien, en fait, il n'y a pas d'espace pour en discuter. Et le syndicat, il doit être aussi le lieu où on peut discuter de ça. Et après, comment on le traduit dans des droits ?
Et justement, il me semble que la thématique est toute trouvée, hein. Justement, c'est quoi l'éducation populaire pour vous ?
Pour moi, l'éducation populaire, c'est vraiment la question de l'émancipation et de la transformation sociale. C'est-à-dire c'est à la fois des gens qui sont émancipés individuellement, qui sont émancipés collectivement et qui ont la capacité un pouvoir d'agir d'une certaine façon pour transformer la société. Alors évidemment pas pour la transformer n'importe comment, hein, elle se transforme toute seule la société, mais il s'agit de penser à un moment donné qu'on a sa place dans cette société et qu'on a les outils pour pouvoir la faire bouger. Et si on souhaite que la société elle soit demain plus juste, plus solidaire, qu'elle soit plus en harmonie avec le vivant, qu'elle soit plus en capacité d'accueillir toutes les formes de différences, etc., etc., eh bien là, on a un levier pour agir. Et pour moi, c'est ça l'éducation populaire, c'est de se donner ce levier pour agir. C'est donc de fabriquer aussi du savoir collectif qui peut être réinvesti dans cette transformation.
Alors, à ce titre, est-ce que vous avez une expérience marquante qui illustre l'impact positif de l'éducation populaire? Est-ce que vous pouvez la partager avec nous?
Oui, alors je prendrais bien une anecdote parce qu'elle me semble intéressante. Franck Lepage, qui était directeur des MJC, qui a fait beaucoup de travail sur l'éducation populaire et qui a fait, on trouve facilement, hein, une conférence gesticulée sur l'éducation populaire, commence sa conférence en disant qu'avant, il travaillait avec les pauvres et qu'il apportait de la culture aux pauvres et donc qu'il déversait ce qu'il appelle du fumier culturel sur les pauvres. Moi, j'enseigne à Paris 13, c'est Villetaneuse, voilà. Et donc, même si maintenant, ça s'appelle Sorbonne Paris Nord, on reste dans le 93 et j'ai des étudiants qui sont de toute origine. Et régulièrement, je leur passe des extraits, y compris de la conférence gesticulée de Franck Lepage. Et c'est très intéressant parce que ça les fait réagir. Mais ça ne les fait pas réagir comme on le voit dans la vidéo. C'est-à-dire que là, on a des gens qui sont bien pensants et que ça amuse. Et bien, eux, ça les fait réagir de façon violente. Parce que ça les fait réagir sur l'idée que comment on les traite finalement. Et comment on prend en compte des gens qui habitent dans la banlieue, qui ont une culture et qu'on ne reconnaît pas, mais qu'on identifie simplement à des gens non cultivés sur lesquels il fallait déverser de la culture entre guillemets savante. Et je trouve que c'est intéressant parce que ce n'était pas le but, mais c'est une démarche d'éducation populaire. Parce qu'en faisant réagir les étudiants de cette façon-là, ils prennent conscience à la fois de l'image qu'on a d'eux, de l'image qu'eux veulent porter d'eux-mêmes et de leur capacité à transformer ça. De façon plus ancienne, je me souviens du film La Haine quand il était sorti et de l'impact qu'il avait eu dans les banlieues, les gens disant « c'est pas possible qu'on nous voit comme ça, il faut qu'on réagisse ». Et c'est ça, à mon sens, qui fait de l'éducation populaire, c'est prendre conscience et agir pour que ça se transforme.
Et dans l'histoire et aujourd'hui, quel lien faites-vous entre éducation populaire et syndicat ?
Alors, il y a des liens très historiques, hein, j'ai envie de dire. Le premier lien historique que moi je vois, c'est un courant ouvrier qui a fondé l'éducation populaire en parallèle d'un courant plus pédagogique qui est plus développé en France et d'un courant religieux qui était lié à la doctrine chrétienne de l'Église. Après la révolution de 1848, il y a tout un mouvement qui se met en place et qui crée les bourses du travail. Et là, l'idée, c'est à la fois de permettre du travail à tous les travailleurs, mais c'est aussi de les protéger. Et un des effets induits finalement des bourses du travail, ça va être qu'on va former des cadres syndicaux, mais aussi des contremaîtres, parce que les patrons ne sont pas dupes. Une fois que quelqu'un est bien formé, eh bien, il peut venir travailler dans l'entreprise aussi à un poste de responsabilité plus élevé. Mais c'est là que se fabriquent les syndicats, c'est là que naît la CGT, le premier syndicat français. Hein, voilà. Et donc, c'est vraiment un lieu qui va produire finalement l'idée que les travailleurs doivent être accompagnés, mais aussi que le syndicat, c'est un lieu qui va les former, les faire progresser, leur donner des outils pour être eux-mêmes au cœur de la transformation de leur métier, de leur entreprise et de leurs responsabilités. Dans le syndicalisme enseignant, on va avoir ça aussi qui va être très fort, c'est-à-dire que d'une certaine façon, on va avoir l'idée qu'il faut continuer à former. Il va falloir continuer à inventer. Je me rappelle qu'au tout début de ma carrière, quand j'étais instituteur, le syndicat des instituteurs avait tous les ans un congrès. Une année, c'était un congrès statutaire et une année, c'était un congrès pédagogique. On avait pourtant fait l'école normale, on avait 3 ans de formation, mais on avait tous les 2 ans un rappel par le syndicat de, d'outils pédagogiques pour faire notre métier. Et c'est, je crois, intéressant, c'est certainement ce qu'il faut pouvoir reconstruire aussi peut-être dans le syndicalisme aujourd'hui, c'est être cette capacité de former à des nouvelles émancipations. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas dépendant de plein de choses dont on n'a pas les leviers pour agir ? Je pense à un truc tout simple. Tous les soirs, au journal de 20 heures, on nous dit le CAC 40 a monté de tant de points, a baissé de tant de points, machin, etc., etc. Et derrière, on va nous expliquer que ça justifie la mise en place de telle ou telle mesure de politique économique. Combien de téléspectateurs sont en capacité de comprendre le lien qu'il y a entre un effet et une politique économique ? Et bien là, on manque d'émancipation. Et si et s'il y a des besoins, et ben effectivement, c'est là qu'il doit y avoir aussi l'apport de l'éducation populaire et donc l'apport des syndicats pour faire comprendre quels enjeux et est-ce que c'est le seul levier économique qui est possible ou est-ce qu'il y en a d'autres ? Tout le monde n'a pas lu Bernard Maris, tout le monde n'a pas lu Cohen et donc il y a aussi là des éléments à faire passer. C'est le rôle de l'éducation, c'est le rôle de l'éducation populaire et c'est le rôle des syndicats dans ce cadre-là.
Alors justement, comment renforcer la collaboration entre les syndicats, les mutuelles et les mouvements d'éducation populaire ?
Ben, je pense, et la table ronde qu'on a eue aujourd'hui était révélatrice de ça, c'est-à-dire qu'en fait, on a la même finalité de transformation de la société à partir de leviers qui sont peut-être des entrées différentes. En tout état de cause, c'est de reconstruire une démocratie sociale qui passe par une vision globale de la société et des points d'entrée qui vont être, bah, pour les mutuelles, peut-être la santé, en l'occurrence ici, pour les associations qui vont être de l'action sur un certain nombre de champs, et pour nous, sur le domaine du champ du travail pour les syndicats. On a tout intérêt à renforcer nos collaborations et à renforcer nos points communs. On invente chacun de notre côté des lieux de réflexion, des lieux de formation, des accompagnements de nos militants, etc. Et c'est certainement très bien et nécessaire. Et puis, certainement qu'il faut qu'à un moment donné, on puisse dépasser nos chapelles laïques individuelles pour construire collectivement des lieux où on aura à la fois des outils communs, des démarches communes et où on apprendra à se connaître et donc à renforcer. Je pense que souvent, 1 plus 1, ça peut faire 3. Ça peut être beaucoup plus riche que simplement l'addition de nos complémentarités. Et c'est ça qu'il faudrait pouvoir faire. Il y a des époques où c'était plus vivant. Là, on a chacun, pour des raisons qui étaient propres à nos organisations, développé des choses dans nos champs. Des fois, on s'est un peu éloignés les uns des autres. Et là, je pense qu'il y a besoin de retrouver du commun.
Alors aujourd'hui, avec les réglementations gouvernementales qui régentent la protection sociale sans négociation avec les corps intermédiaires, est-on encore en capacité de construire de la protection collective qui soit émancipatrice ?
C'est tout le débat de la démocratie sociale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est confronté à des gouvernements qui pensent qu'ils savent mieux que les autres ce qu'il faut faire et que du coup, élection vaut adhésion. Et donc du coup, même quand on est élu avec un tiers des électeurs, eh bien, on considère qu'il n'y a pas besoin de repasser devant la discussion. Et il suffit d'appliquer son programme ou la partie du programme qu'on pense pouvoir appliquer. Voilà. Et on voit bien que c'est problématique parce que ça décrédibilise y compris la parole politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les citoyens disent « on leur fait plus confiance ». Et quand ils disent « on leur fait plus confiance », ils disent « on leur fait plus confiance aux politiques ». Mais on fait plus confiance non plus aux corps constitués parce qu'on voit bien qu'ils n'ont pas de place dans ce débat. Et donc, la démocratie représentative, d'une certaine façon, est arrivée à sa limite. Collectivement, est-ce qu'on est capable de construire une alternative à cela ? Ce qui ne veut pas dire que toute représentation n'est pas bonne, mais qu'elle doit être certainement épaulée, complémentée par une démocratie participative. Et c'est là où on a des choses à inventer, parce qu'on a tous des militants, des bénéficiaires, des publics avec lesquels on travaille, etc. Et c'est là que l'on peut collectivement montrer que cette dynamique de pouvoir d'agir, elle peut être plus forte que simplement le poids d'une élection à un moment donné et qui dit, voilà, c'est joué pour 5 ans, pour 7 ans, pour 6 ans, et que ce soit dans votre commune ou que ce soit dans votre région ou au niveau national ou européen, eh bien, une fois que vous avez voté, c'est terminé, vous n'avez plus rien à dire. Et donc, moi, je pense que c'est vraiment là qu'on a à reconstruire quelque chose et qu'on pourra le faire collectivement et que du coup, il y a du vrai travail. C'est, ça ne s'arrête pas là, ça ne s'arrête pas au fait que tel ministre ou tel président dit « j'ai pas besoin des corps constitués ». C'est aussi de se dire « mais nous, on a des choses à dire et on a une parole qui a du poids parce qu'elle est portée par des millions de gens qui nous soutiennent, parce qu'on a été les voir, on a été discuter avec eux, on a construit nos propositions avec eux ». Et donc, ça ne peut pas être balayé d'un revers de la main.
Merci beaucoup, Denis Adam, c'est passionnant.
Merci.
Alors, un livre, un film, un podcast, est-ce que vous auriez une recommandation pour nos auditeurs pour bâtir un futur solidaire ou alors un guide pour s'aventurer vers l'avenir ?
Ouais, alors des guides, j'en ai pas et je m'en méfie. Hein, voilà. Alors après, j'aurais deux propositions à faire. Ma première proposition, c'est de lire Michel Serres. Tous ses ouvrages, voilà, je pense que c'est un des philosophes qui, même s'il est assez méconnu, nourrit à travers sa réflexion à peu près tout ce qui peut être la construction de demain, et en particulier de un de ses derniers livres, quand il dit « c'était mieux demain, je le sais, j'y étais », et où il démontre à tour de page qu'il n'y avait rien de mieux hier et que voilà, c'est vraiment demain qu'il va falloir construire. Et puis, un autre clin d'œil, un film qui date un peu maintenant déjà, mais qui est « Soyez sympa, rembobiné » de Michael Gondry. Ça n'a rien à voir avec tous ces sujets sérieux, c'est un film plutôt humoristique, voilà, mais dont la scène finale est révélatrice, je pense, de l'éducation populaire. Un petit groupe dans un quartier en démolition, de toute origine, sociale, ethnique, d'âge, qui décide de faire son propre film pour raconter son histoire. Les moyens techniques font qu'ils diffusent dans un vieux vidéoclub le film sur la vitrine. Et quand le film est terminé, il y a un élan d'applaudissements dans la rue parce que, en fait, le film il a été diffusé sur la vitrine, donc pas pour les 20, 30, 40 personnes dans le ciné-club, mais pour toute la ville. Et il fait cohésion avec l'ensemble des gens qui se disent « là, on a vu un objet qu'on a construit ensemble et qui nous transforme ».
Merci pour cette belle illustration du recours à l'éducation populaire comme moyen de faire vivre un espace de démocratie effectif et engageant au sein de la Mutuelle. On espère que cette discussion a été enrichissante pour nos auditeurs. Restez à l'écoute pour de futurs épisodes sur des sujets passionnants. Merci de nous avoir rejoints.